Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Voici donc mon premier exposé de janvier 2018. Avant tout, je tiens à vous souhaiter une bonne année. Espérons que 2018 sera plus favorable que 2017. Je parlerai aujourd'hui de Saint-Vincent de Paul. Au temps de la Fronde, on entendait partout parler de Monsieur Vincent, de ses frères et surtout de ses sœurs, bientôt appelées filles de la charité, des sœurs qui, à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu et à la Salpêtrière, recevaient jusqu'à 4000 pauvres et malades. Les débuts de sa vie furent plutôt agités. Il naquit en 1580 à Pouilly, dans les Landes, sous le règne d'Henri III. Il était le fils de Jean de Paul, en un seul mot. Il s'appelait Vincent de Paul, au sein d'une famille de paysans où tout le monde travaillait. De bonne heure, il assurait à son tour la garde des porcs et des moutons et empoignait le manche de la charrue ou le soc de bois. Son père distingua assez vite les facultés intellectuelles du jeune Vincent et l'envoya à 14 ans étudier au collège de Dax. Le juge de Pouilly l'orienta vers l'état ecclésiastique. Il reçut la tonsure, les ordres mineurs et le sacerdoce en 1600. Il avait 19 ans. Il ne prit pas possession de la paroisse qu'on pensait lui confier, mais alla à Rome, où il fut reçu bachelier de théologie en 1604. En 1605, commença une aventure qu'il a contée dans une lettre qu'il chercha ensuite à dissimuler. Il y raconta qu'il a été fait prisonnier par les Turcs, emmené en barbarie dont il réussit à s'échapper avec l'aide d'un renégat qui l'avait taché comme esclave. Ils s'enfuirent et finirent par débarquer à Aigues-Mortes, où le renégat abjura et revint à la foi. L'authenticité de cette aventure n'est peut-être que partielle, mais contient probablement quelque chose de vrai. De toute manière, ce n'est qu'une chose secondaire dans la vie de ce saint. Après un deuxième séjour à Rome, Vincent s'en alla à Paris. Un ami lui trouva une place parmi les émigrés de la reine Marguerite. Mais ses finances étaient peut-être un peu état et ses revenus étaient très faibles. Il pensa à les améliorer avec l'acquisition d'une certaine abbaye, mais l'abbaye dit en façon qu'on l'étendait. Heureusement, il avait plusieurs relations de choix, dont M. de Béry. Il accepta de prendre une cure à Clichy. Pour la première fois depuis son ordination, il reçut charge d'âme. Il débuta son expérience pastorale. C'était en 1612. Il avait donc 31 ans. Ce fut un succès. Il s'éloigna de Pierre de Bérulle qui le poussa dans l'illustre famille des Gondy. Le chef de famille était un homme mondain et fortuné, mais aussi un homme de foi. Neveu d'un évêque auquel il succéda après son veuvage. Vincent est choisi comme précepteur, celui qui laisse quelque temps libre. Il connut alors, comme la plupart des grands saints, une période de sécheresse, de tentation contre la foi. Il dit l'avoir éprouvé pendant 4 ans, de 1613 à 1617. Au cours de l'hiver 1617, Dieu lui fit signe au chevet d'un pauvre malade. Il se mettra au service des pauvres, il avait 36 ans. Il commença à prêcher sur la charité et à réunir quelques dames dans ce but. Il organisa ainsi, et puis organisait aussi des confessions générales. Le 1er août, il est curé de Châtillon de Dombes. On lui signale une maison dans laquelle tout le monde était malade. C'est alors qu'il convoqua des dames décidées à leur porter secours afin d'organiser leur vie quotidienne. La première réunion des dames de charité eut lieu le 21 août. Le 23 avait lieu et il leur livra une première ébauche d'un texte sur les règles de leur association. Tout y est prévu, la manière d'assister les malades, de leur présenter la nourriture, ainsi que celle de se procurer des aides et d'étudier les comptes. Monsieur de Paul, comme on l'appelait officiellement, procédait à la fondation de la confrérie en la chapelle de l'hôpital. En 1618 et 1619, il eut plusieurs contacts avec M. Genève, dit saint François de Sales. En ce qui concerne la vie religieuse et une nécessaire osmose entre la doctrine salésienne et sa doctrine de charité. Monsieur de Gondy lui confia une vaste paroisse qui n'avait jamais eu de titulaire, le bagne et les galères. Il a demandé à Louis XIII de nommer Monsieur Vincent aumônier général des galères. Heureusement, les dons n'ont jamais manqué. C'était en 1619. Il accueillit cette nomination avec beaucoup d'amour. Il rendit visite aux galériens à Marseille et prêcha une mission sur leur territoire à Bordeaux. L'évêque de Beauvais lui confia aussi la retraite des ordinaires. Les exercices de M. Vincent eurent un succès considérable. Le prieur du vaste couvent de Saint-Lazare et l'archevêque de Paris firent entrer M. Vincent dans leur vaste prieuré. Au début de 1633, Rome approuvait la congrégation. Un tournant décisif est pris et les activités de M. Vincent ne vont cesser de se développer. Les charités se multipliaient. En plus des pauvres malades, elles prirent en charge les mendiants, les prisonniers, les galériens et les sinistrés de la famine et de la guerre. Il fallait organiser tout cela. Les dames de charité durent déléguer à des servantes les besoins matériels pour lesquels elles n'étaient guère formées. Celle qui prit en charge cette opération fut Madame Legras, née Louise de Marillac, en 1591-1660, et mort donc à 61 ans. C'était une petite femme qui ne mesurait même pas 1m50 et qui, après la mort de son mari, se consacra aux œuvres charitables. Elle suivit les conseils de M. Vincent, lui demandant d'être gaie, de suivre la Providence sans tenter de l'enjamber. Louise de Marillac fonda les filles de la charité, joignant aux gentes dames des filles des champs, désirant à la fois servir les pauvres et être à Dieu. Les familles bourgeoises étaient ainsi associées à la vie de leurs servantes. Elles n'étaient pas cloîtrées, ce qui était une nouveauté que saint François de Sales n'avait pas osé. Elles étaient en quelque sorte sans autre protection contre les voyous que celle de Dieu via leurs anges gardiens. Encore plus que les dons accumulés, l'ambiance des charités était un miracle. Notons que cette époque était celle de Descartes, des tragédies de Corneille, de la fondation de l'Académie française. Entre 1638 et 1643, 9 maisons furent ouvertes. En 1639, Saint-Vincent avait la charge de 4 monastères. Les dons étaient souvent généreux. En 1638, M. Vincent se voit conduit à prendre en main une affaire urgente, les enfants trouvés. Chaque année, 300 enfants étaient abandonnés dans les rues de Paris. On estimait qu'entre 1600 et 1638, 12 000 petits étaient morts de faim. C'est tout de même moins que les victimes de l'IVG actuelle. Notons en passant que 1336 vit le début d'une guerre entre la France et l'Espagne, guerre qui commença par une défaite à Corbie et la prise de Vérins par les Espagnols. Il faudra attendre 1648 pour voir revenir à la paix avec le traité de Westphalie. Les dégâts dus à la guerre étaient importants dans le nord de la France. Les gars étaient importants dans le nord de la France. Oh là là, j'ai... En 1643, l'activité de Saint-Vincent-Paul prend des dimensions qui tiennent du prodige. Il préside à de nombreuses œuvres qui partent de la maison mère. Il rédige les règles des missionnaires, dirige les visites en dîme et écrit ou dicte en moyenne une dizaine de lettres par jour. La congrégation de la mission s'étend non seulement en France, mais en Italie, à Gênes, à Turin, dans les îles britanniques, en Islande, en Écosse, pour secourir spirituellement les esclaves. Les consulats de Tunis et d'Alger sont aidés par la présence de prêtres ou de frères de la mission. En 1648, un peloton de missionnaires part pour Madagascar, et en 1651, un autre pour la Pologne. Les mardis de la mission se développent et de la province, ils écrivent à M. Vincent pour lui demander conseil. Il en a maintenant à Saintes, à Marseille, à Lens, Metz, Turin, Le Puy, Angoulême, Angers, Bordeaux, etc. En 1647, l'œuvre des enfants trouvés se trouva compromise par une nette augmentation de la misère. M. Vincent lança alors un appel pathétique aux dames des enfants trouvés. Ces enfants vivront si vous continuez à en prendre charitablement soin. Ils mourront et périront infailliblement si vous les abandonnez. Aucun arrêt de mort ne fut prononcé. M. Vincent s'intéressa aussi aux régions dévastées par les guerres. Après la Lorraine secourue dès 1639, trois autres régions appelèrent au secours. La Picardie, la Champagne et l'Île-de-France. À Saint-Lazare,